Africa.
Ambiance.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssacha.
Direction le téléphone d'Africa Radio pour accueillir notre soleil du vendredi. Nous accueillons Eva Barra, elle est ethnocoach en fusion culturelle. C'est une discipline axée sur le développement personnel et l'estime de soi dans un contexte de biculturalité. Alors nous avons commencé une série sur l'éducation de nos enfants. Nous étions d'ailleurs la semaine dernière sur la distribution des rôles dans l'éducation de nos enfants. Alors aujourd'hui, elle voulait aborder cette question, les attentes des parents envers l'école et les enseignants envers les parents, c'est tout un sujet. Eva, bonjour, merci de nous rejoindre.
Bonjour Aïssa, merci pour l'accueil. En effet, oui, c'est tout un sujet et c'est un peu devenu une guerre des tranchées ces dernières années. Je ne sais pas comment toi tu le ressens en tant que parent et par rapport à la génération précédente, eh bien cette différence qu'il y a entre la relation des parents aux enseignants et des enseignants aux parents.
Ouais.
Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aller écouter cette partie-là. Toi, est-ce que tu en as des souvenirs, justement, de comment est-ce que tes parents te présentaient, par exemple, les enseignants, le directeur, etc.
En tout cas, ben, un peu comme l'autorité, les médecins, la police, faut respecter, quoi.
Totalement, exactement. Ça me paraît important de repartir de là, parce que justement, il y a eu cette génération de parents. On parle de première ou de deuxième vague d'immigration, certes, mais en fait, ils ont présenté le corps enseignant, et c'est bien que tu l'englobes avec tout ce qui est médecin, police, gendarme, etc. Ils les ont englobés sous des figures d'autorité.
Absolument.
Donc, ils éduquaient leurs enfants, ils nous ont éduqués, nous, dans le respect absolu de ces corps de métier. Et aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose qui se joue? Est-ce qu'on enseigne la même chose de la même manière aux enfants, à la génération actuelle? Est-ce que toi, t'en as des
réponses? Très bonne question. En tout cas, pour ma part, oui.
Ok. Bah, du coup, ceux qui réussissent à le retransmettre autant que possible, je trouve que c'est une bonne chose. À la fois, il y a également toute une génération de parents de la nouvelle génération qui, pour le coup, eh bien, sont dans une écoute de leur enfance, ce qui est génial, hein, parce que la génération précédente, c'est ce qui manquait.
Ouais.
C'est là où il y avait de la carence, c'est-à-dire que les parents posaient en autorité absolue les corps d'autorité.
Quelles que soient les circonstances,
quel que soit le verbal, l'enfant n'avait même pas son mot à dire, on ne lui demandait pas qu'est-ce qui s'est passé. Dès lors qu'il y avait un mot, dès lors que l'enseignant n'était pas content, eh bien, l'enfant se faisait réprimander sans qu'on lui demande
sa version
des faits.
Absolument.
Ça a créé énormément de frustration. Ça a créé des malentendus. Et en matière de transgénérationnalité, eh bien, c'est comme si ces mêmes enfants qui ont vécu cette injustice de la part de leurs parents, qui ne leur ont pas donné la parole, qui ne les ont pas écoutés,
n'ont pas envie de la reproduire.
Aujourd'hui, adultes, eh bien, ils sont dans un « je ne veux pas reproduire ». Exactement ce que mes parents, eh bien, m'ont fait subir, en fait. C'est-à-dire que mon enfant, je l'écoute, mon enfant a raison. C'est une bonne chose, mais quand on est dans de la reproduction, et du coup, on est dans du surtout pas la même chose, donc en fait, dès lors qu'on prend en figure de référence ce qui nous est arrivé, ça devient une norme. Même si c'est pour s'élever à l'opposé. Eh bien, ce qui se passe bien souvent, c'est qu'on arrive sur l'autre extrême. C'est que du coup, on arrive sur la surécoute de son enfant, on arrive sur le fait qu'il a raison sur tout,
ouais.
On arrive sur le fait qu'on peut voler dans les plumes des figures d'autorité au niveau de l'école, parce que justement, notre enfant a raison en toutes circonstances.
Ah bah on se dit, moi je connais mon enfant, je sais comment il se comporte, alors que certains enfants ont des comportements qui ne sont pas les mêmes à la maison et dehors.
C'est absolument ça. C'est important de garder en tête que l'enfant qu'on a à la maison, ben on l'a avec ses frères et sœurs, s'il y en a, et que c'est pas la même pré-personnalité qui se joue dès lors qu'il est en collectif avec d'autres enfants, avec d'autres camarades du même âge. Maintenant, il s'agit pas de savoir est-ce que nos parents avaient raison, est-ce que nos parents aujourd'hui on a raison. Il s'agit de trouver encore une fois en double culture, en pluriculturalité, comment est-ce qu'on arrive sur deux. L'équité. Parce que plus ça va être apaisé au niveau des adultes, plus ça va être apaisé au niveau des enfants. C'est-à-dire que si les adultes ils parlent d'une même voix, l'enfant aura déjà moins de possibilités d'aller dans les brèches, parce qu'on sait qu'ils sont très, 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 très doués pour ça.
Absolument.
Donc maintenant, il s'agit d'aller régler justement notre son, notre voix avec le corps de métier, ce moment-là, enseignant pour le coup. Donc il s'agit vraiment d'aller comprendre comment fonctionne l'école, quelles sont les valeurs de l'école. Et c'est là où aujourd'hui, je pense qu'on a cette chance-là d'être toute une génération d'afro-descendants, d'avoir cette, de penser aux écoles privées. Et quand on va inscrire son enfant dans une école privée, et ben, même quand on va l'inscrire dans une école hors, comment ils appellent ça, hors juridiction, en fait, par rapport à son lieu d'habitation, eh bien, on va se renseigner sur quelles sont les valeurs de l'école. Mmh. Quels sont ses importants, quels sont ses angles de travail, est-ce que c'est des méthodes, comme ils disent, Montessori ou freiner, etc. On va se renseigner là-dessus. Ensuite, eh bien, on adhère. On adhère ou on n'adhère pas. Mais en fait, rien que le fait que le corps enseignant voit les parents, ça pose déjà un cadre.
Absolument.
Et il y a des enseignants qui te disent que de toute l'année scolaire, il y a des parents qui ne l'ont pas vu. Mmh. Donc la façon dont ils vont prendre en charge cet enfant-là, ça va forcément jouer le fait qu'ils connaissent les parents, qu'ils ne les connaissent pas du tout. Le fait que les parents soient impliqués ou qu'ils ne soient pas impliqués du tout. Donc, pour revenir sur le sujet, je dirais qu'il n'y a pas de... C'est pas l'un ou l'autre. Il s'agit aujourd'hui de trouver justement comment on distribue les rôles. Moi, j'aime l'idée que à la maison, c'est la responsabilité de la maison et des parents, des grands frères, des grandes sœurs, de travailler, de sculpter, d'aiguiser le savoir-être de l'enfant.
Absolument.
Donc tout ce qui va être dans le savoir-être, ben, ça va être le respect, ça va être la politesse, ça va être ben, lui de pouvoir, comment il va exprimer ses émotions, comment il va s'exprimer, comment est-ce qu'il met en mots ce qu'il ressent, ce qu'il pense, son intelligence. Et à l'école, c'est le rôle des enseignants, des profs, c'est le rôle du périscolaire, c'est le rôle du service d'animation de la commune d'aller aiguiser, préparer, le faire travailler sur son savoir-faire. Donc là, ça va être ses compétences, ses appétences, dans quoi est-ce qu'il aimerait se développer, quelles sont les connaissances qu'il doit avoir au minimum, ce qu'on appelle le tronc commun, pour se déployer dans la vie. À mon sens, ça, c'est la responsabilité du corps enseignant, du corps périscolaire, etc., etc.
Et c'est vrai qu'on voit ces dernières années que ça a un peu débordé. On ne sait plus si c'est le rôle de l'école, l'éducation, le rôle de la maison. Et c'est vrai que c'est assez compliqué aussi pour le corps enseignant qui en prend beaucoup aussi.
Oh.
On tape beaucoup
très,
sur
très
eux.
Bien de le dire. Ah oui, non, mais ils se font beaucoup taper dessus parce qu'on dit qu'ils n'aident pas l'enfant dans tel domaine, qu'ils ne font pas leur travail dans tel domaine. Mais il faut peut-être revenir sur les fiches de métier. Je pense que c'est devenu flou. Les limites sont devenues floues, les responsabilités sont devenues floues. Mmh. On en parlait très bien la semaine dernière sur le harcèlement scolaire. Mmh. Eh bien, et on en parle encore dans les médias justement suite à cette dernière affaire qui a été dramatique, certes. Et c'est important de revenir là-dessus. Mais on revient principalement sur qui est responsable. Et on arrive à se poser la question à qui revient le rôle d'aborder ces sujets-là avec l'enfant. Est-ce que c'est aux parents? Est-ce que c'est aux enseignants? Donc c'est toujours comme une guerre en fait, comme si c'était justement dans l'enseignement, dans l'éducation de l'enfant, eh bien il y a deux grands axes, il y a le savoir-être et le savoir-faire. À mon sens, le savoir-être se travaille à la maison, le savoir-faire se travaille en institution, à l'école, du coup à l'école, en périscolaire, en loisirs, en sport co, etc. Donc oui, le harcèlement eh bien découle d'un savoir-être. Donc, apprendre à l'enfant à respecter toute forme de vie, c'est le rôle du parent. À la fois, la vie en collectivité, c'est du savoir-faire. Donc, c'est également aux enseignants, aux coachs sportifs, d'enseigner à l'enfant comment refouler sa colère, comment l'exprimer dans les règles de l'art sur un terrain de foot, etc. Ça revient au rôle des institutions. Pour moi, c'est pas l'un ou l'autre. C'est là où il est urgent que on pacifie cette connexion-là. Ce n'est pas les parents ou le corps enseignant. C'est que ça doit être une continuité. C'est un savoir-être mis au service d'un savoir-faire.
D'où l'importance du partenariat entre les enseignants et les parents dont tu parlais
tout à l'heure. Totalement. Donc il y a plein de parents qui nous expliquent que ça n'a pas de sens, qu'ils voient pas l'intérêt. Eva, il est en maternelle, qu'est-ce que je vais aller m'asseoir 2 heures, un soir de semaine alors que je dois gérer ses frères et sœurs pour une réunion scolaire? Il est en maternelle, je le sais.
Il faut y aller.
À la fois, eh bien, ces 2h30 vont faire que l'enseignante va repérer le parent, va se dire « Ah, il est impliqué, du coup, j'ai un visage », on se le dit ou non, émotionnellement parlant, ça compte, il y a de l'affect qui va se créer, et donc l'enfant va être considéré différemment, va être écouté différemment. Donc oui, ça demande une implication de la part des parents qui ont souvent déjà des grosses journées, c'est important de le reconnaître aussi, hein. Ils ont leur activité, ils ont la maison à gérer, etc. Mais c'est important de prendre ce temps-là en début d'année, en cours d'année, juste avant les vacances, d'aller passer 10 minutes, 20 minutes avec l'enseignant de son prof pour savoir comment ça se passe. C'est un investissement sur le long terme, sur la scolarité de l'enfant.
Absolument.
Et un partenariat, comme tu dis, un partenariat nécessaire aujourd'hui.
Pour nos enfants, nécessaire. Et justement, merci en tout cas pour tous ces conseils, ces éclairages. Eva Barra, je rappelle que tu es ethno-coach en fusion culturelle. C'est une discipline axée sur le développement personnel et l'estime de soi dans un contexte de biculturalité. On te retrouve sur les réseaux. Tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Totalement. Alors du coup, oui, l'ethno-coaching, c'est vraiment tout ce que je viens de développer là, c'est l'importance d'aller pacifier nos cultures d'origine et la culture du pays dans lequel on vit, qu'on soit dans un contexte d'immigration ou de comment ils appellent ça, de répat, parce qu'il y a également des personnes qui sont de retour sur le continent et je leur fais plein de bisous parce que c'est merveilleux comme projet. Mais c'est maintenant comment est-ce qu'on compose avec la culture qu'on a à l'intérieur de nous et la culture qu'il y a autour de nous qui parfois peuvent s'entrechoquer. Donc dans ces cas de figure là, j'interviens pour pacifier tout ça et pour que la personne crée sa vie à partir de soi, au contact des autres.
Voilà, tous sur internet pour en savoir un petit peu plus sur le site d'Eva Barra, www.evabarracoach.com. Il y a aussi tous les autres réseaux sur Facebook, sur Instagram. Allez, partout, Eva Barra, merci beaucoup.
Totalement.
Ça a été un vrai plaisir, comme d'habitude. On se retrouve, j'espère, vendredi prochain.
Plaisir partagé, Aïssa, à vendredi prochain.
Bonne journée. La suite en musique avant de retrouver la pause dans un instant, l'info également puisque nous prendrons la direction de Dakar pour retrouver nos collègues de BBC Afrique. Bonne fin de semaine.